Chapitre 44. Landal Larkin, toujours sans connaissance, était installé sur l'un des deux sièges de jardin, les avant-bras retenus au bras du fauteuil par des attaches en nylon, les chevilles solidement arrimées aux pattes avant. Jane lui faisait face sur le second fauteuil pliant, à près de 3 mètres de distance. La lampe tempête laissait échapper un léger sifflement de gaz sur la table improvisée. Le menton sur la poitrine, Larkin montra les premiers signes d'agitation. Il marmonna des borborygmes, un filet de salive s'échappa de ses lèvres et glissa le long de son menton avant de s'écouler jusqu'à la jambe de son élégant pantalon de costume gris. Jane l'entendit distinctement fredonner quelques mesures d'une mélodie qu'elle n'identifia pas, puis ses doigts caressèrent avec un plaisir manifeste l'aluminium lisse des montants de son siège. Il finit par relever la tête, puis il ouvrit les yeux et manifesta sa stupeur en battant des paupières. La lumière crue de la lampe le fit grimacer et il remarqua soudain la présence de Jane. Il fronça les sourcils et émit un bruit de bouche.
« Je rêve, » dit-il en refermant les yeux.
Lorsqu'il les rouvrit quelques minutes plus tard, il avait compris qu'il ne rêvait pas.
« Vous, qui vous êtes ?»«
Devinez. » Voulant essuyer la bave qui dégoulinait de sa bouche, il s'aperçut pour la première fois qu'il était entravé. Il banda les muscles des avant-bras et rua sur son siège qui racla le béton du sol. Il reporta son attention sur la jeune femme d'un œil plus alerte.
« La ruelle. La fille dans la ruelle. Qu'est-ce que vous fichez là ?»
Elle lui répondit d'une voix calme, presque compatissante. « La question qui mérite d'être posée, c'est ce que vous faites ici. »«
Je vous connais ?»« Je ne vous connais pas. » »«
Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais vous me connaissez. » »«
Pourquoi jouer aux devinettes avec moi ?»«
Vous ne me reconnaissez pas à cause de cette perruque, » lui expliqua-t-elle patiemment. « La perruque ? Le bleu à lèvres ? Le piercing dans le nez ?» Il s'efforça de comprendre ce qu'elle lui disait, et ses yeux d'un brun clair inhabituel, presque kaki, s'écarquillèrent brusquement.
« Jane Oak !»«
Je constate que vous avez quitté le pays des rêves. » Il testa à nouveau ses liens.
« Comment suis-je arrivé jusqu'ici ? Que m'avez-vous fait ? J'ai un drôle de goût dans la bouche. »«
C'est à cause du chloroforme. » Il caressa chaque dent avec la pointe de sa langue en cherchant la signification de ce terme.
« Vous êtes folle. Vous êtes complètement piquée. »
Elle secoua la tête, un sourire aux lèvres.
« Ce n'est pas mon avis. »
« Vous avez commis un enlèvement. »
« En quelque sorte. »
« Vous risquez la prison à vie. »
« Ne vous inquiétez pas pour ça, Randy. Je suis déjà recherchée pour meurtre. »
Au mouvement de ses yeux, elle devina qu'il mesurait ses chances. Il examina la table de fortune réalisée avec des barils, les bouteilles d'eau qui y étaient posées, les gamelles pour chiens, la lampe tempête et sa recharge de gaz. Il leva la tête en direction des impostes à travers desquels pénétrait péniblement le soleil du matin, puis il balaya l'immense espace des yeux en tentant de percer l'obscurité au-delà du cercle éclairé par la lampe, à l'écart de l'espace et du temps. Jane prononça soudain les dernières paroles qu'il avait lui-même adressées la veille à Lorraine Sanafin.
« Évite de laisser brûler tes toasts !» Il ne saisit pas tout de suite l'allusion, avant de comprendre qu'elle avait surpris leur conversation.
« Merde » gronda-t-il.
« Pour y être, vous y êtes vraiment ?» réagit-elle d'un air compatissant.
Il opta pour l'expression tranchante qui avait dû intimider plus d'un témoin lors des procès dans lesquels il avait plaidé.
« Vous ne me faites pas peur. »
« Je sais, acquiesça-t-elle, mais ça viendra. »
« Vous savez déjà tout ce que vous voulez savoir. »
« Pas tout. »
« Même si vous m'obligiez à parler, ce qui ne risque pas d'arriver, Je ne vous apprendrai rien de neuf. »
Elle le dévisagea sans un mot. Seul le sifflement de la lampe troublait le silence.
« Désolé, » reprit-il au bout d'une minute. « Mais ce genre de technique ne marche pas avec moi. »
« Je n'utilise pas la moindre technique. J'attends patiemment que vous acheviez de vous convaincre que vous ne risquez rien. »
Il feignit de s'intéresser à nouveau au décor de l'usine.
« Où sommes-nous ? »
s'enquit-il en cherchant à percer la pénombre qui enveloppait l'immense espace.
« Quelque part. »
« On nous retrouvera. »
« Je me suis débarrassée de votre portable. Votre Mercedes vogue à des kilomètres d'ici. » Elle ne tardera pas à atteindre les eaux du Pacifique.
Elle vogue ? Je ne comprends pas.
Elle se contenta de lui répondre par un haussement d'épaule. Comme le silence s'éternisait, il reprit.
Vous n'avez tué personne. J'ai cru comprendre que vous aviez agi en état de légitime défense.
Je vous l'avais bien dit. Vous essayez de vous convaincre que vous ne risquez rien.
Vous êtes une enquêtrice du FBI en cavale sans état d'âme, mais vous êtes incapable de tuer de sang-froid.
Vous croyez ?
Il lui répondit par un sourire que Léonard de Vinci n'aurait pas aimé peindre, et elle observa un silence prudent en le voyant afficher sa supériorité.
Ce putain de chloroforme m'a donné mal à la tête.
Tant mieux.
La lampe siffla de plus belle, comme si la réserve de gaz s'épuisait, et qu'une obscurité éternelle allait les envelopper à l'instant où s'éteindrait le sifflement.
« Même si je vous faisais sauter la cervelle, ce ne serait pas un assassinat mais de la légitime défense. Vous savez pourquoi ?»
Il affronta son regard en refusant de jouer le jeu.
« Parce que vos complices ont menacé mon petit garçon. Vous l'ignoriez ? Ils ont menacé de le violer et de le tuer. » Ils ont menacé de l'offrir aux cinglés de Daesh ou de Boko Haram pour qu'ils en fassent leur esclave sexuel. Avec moi en prime.
Apprendre ces détails qu'il ignorait amena l'avocat à considérer sa ravisseuse d'un autre œil.
De quelle marque est votre costume ?
Lui demanda-t-elle. La question le désarçonna.
Brunello Cucinelli ? Comme les costumes de Larry Hanafine ?
Comment ? Non, pas du tout.
« Chez qui l'avez-vous acheté ?»«
Quelle importance peut bien avoir l'origine de mon costume ?»«
Je m'intéresse à vous, Randy. Qui a fabriqué ce costume ?»«
C'est un simple costume. » Elle bondit de son siège en hurlant à tue-tête.
« Qui a fabriqué ce putain de costume, espèce de connard ?»
Il tiqua, surpris qu'elle puisse sortir de ses gonds pour une question aussi triviale.
Hermenegildo Zegna, pas de quoi s'énerver.
Combien l'avez-vous payé ?
Je ne sais pas, dans les 4 000 $.
Et votre cravate ?
Ma cravate ?
Elle se planta devant lui et le gifla à la volée de toutes ses forces, un aller et retour si brutal qu'elle en eut mal à la main.
Oui, votre putain de cravate !
Larkin, habitué depuis si longtemps à imposer sa supériorité, comprit soudain qu'il lui était impossible de s'appuyer sur le décor officiel d'une salle d'audience, pas plus qu'il n'avait la maîtrise de l'interrogatoire. C'était elle qui posait les questions pour une fois. C'était lui le témoin, et elle occupait le rôle du procureur.
« Combien a coûté votre putain de cravate, Randy ?»
Il haussa les épaules avec une indifférence feinte.
« Quelques centaines de dollars. »
« Et votre chemise ? Je vous conseille de répondre. »
« Paul Smith !»
répondit-il en montrant son trouble par un bégaiement intempestif.
« Paul Smith, à Londres !»«
Vos chaussures ?»«
Armando Cabral !»«
Vous êtes un vrai dandy, pas vrai ?»«
Je m'habille correctement, rien de plus. »
Elle regagna son fauteuil pliant et l'observa longuement. En dépit de son masque impassible, ses yeux incandescents trahissaient sa rage. À la lueur blafarde de la lampe, il n'avait pas le teint animé d'un homme en colère, mais la mine grise et les lèvres roses pâles d'un être écartelé entre la fureur et la peur.
« Votre femme se prénomme Diamanta.
Ne la mêlez pas à ça. »
Jane haussa les sourcils. Et pourquoi donc?
Vous avez bien mêlé mon mari à ça?
Elle n'est au courant de rien.
C'est probablement un mensonge, réagit-elle avec l'ombre d'un sourire en tournant la tête de côté, comme si elle le trouvait aussi amusant que répugnant.
Elle reprit sur le ton excité d'une commère en quête de ragots. Diamanta, votre femme. Je serais curieuse de savoir si elle est au courant d'Aspasie.
Le premier moment de stupéfaction passé, il joua l'innocence.
C'est une nouvelle drogue?
Larkin savait qu'elle était au courant des implants cérébraux et de la liste Hamlet. Il savait aussi qu'elle s'était emparée des clés USB contenant le détail des recherches de Chenec le jour de sa mort. Qu'elle avait même réussi à subtiliser des ampoules contenant des mécanismes de contrôle prêts à être injectés. En revanche, personne n'avait eu vent de sa découverte d'Aspasie, une application particulièrement cruelle et déviante des nanomachines.
« Rendu, 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 » le sermonna-t-elle.
« Vous devriez mieux me connaître à présent. Je ne me rends jamais à un rendez-vous sans être convenablement préparé. »
Il se mura dans le silence.
« Allez-vous fréquemment chez Aspasie, Randy? Une fois par mois? Une fois par semaine? Jusqu'à quels extrêmes êtes-vous capable de pousser vos désirs ?»
Elle lisait en lui comme dans un livre. Le teint blême, il avait le regard fiévreux et légèrement trouble de quelqu'un qui se laisse emporter par ses souvenirs. Ses narines dilatées humaient instinctivement l'odeur sulfureuse de son âme corrompue. Ses mains s'agrippaient aux bras en aluminium de son fauteuil, comme s'il atteignait le sommet d'une suite de montagnes russes avant la chute vertigineuse. Autant de signes qui trahissaient son angoisse et sa culpabilité, aussi sûrement que s'il avait rédigé sa confession à la craie sur un tableau noir.